Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 3 février 2022, au lendemain d'un épisode, ma foi, extraordinaire, avec nul autre que...
On retrouve le coloré et spectaculaire Carl Carmoni.
C'était toute une aventure, un gros merci encore à Carl Carmoni, mais là, comme on a fait un show 90% mini-pot, 9% hockey et 1% dentier, on s'est dit qu'on ferait un show traditionnel de la POC aujourd'hui. Avec moi pour cette émission-là, Sylvain Rioux.
Hello, hello!
Et Nicolas Desrosiers.
Bonjour, bonsoir.
Et peut-être Jean-Philippe Vandal qui va se joindre à la discussion, éventuellement si ses enfants s'endorment, mais qui sait si ça va arriver. Je vais gagner.
Tu sais, nous autres, on est un peu comme comme Carl Carmoni, là, finalement. Là, nous autres aussi, il n'y a pas de contrat. On a signé ça avec notre sang. Pis,
de parole.
Parce que nos paroles valent plus que de l'écrit. Là.
Que des mots. Ça vaut plus que des contrats. Je vais gagner ton animateur. J'ai le goût de jaser de hockey. C'est la pause pour le match des étoiles de la Ligue nationale. Et première question, c'est... What the fuck que ça, puis pas les Olympiques?
Hey, le pire, c'est qu'il y aurait eu les deux.
Mais ouais, il aurait pas avoir les deux. Mais...
Ouais, il aurait pu. Ben, surtout que, tu sais, avec les cas de COVID, qu'actuellement, c'est moins pire qu'en janvier. On s'entend
mais
que
il
la situation.
Plus, fait que...
Ben, c'est ça, tu sais. Je pense que finalement, la Ligue nationale est bien contente du résultat parce que les joueurs n'y sont pas allés. Mais au final, c'est vrai que c'est triste. Là. J'ai été excité de cet événement-là cette année. T'sais. Pour moi, les Jeux olympiques, le hockey, c'est quelque chose que j'arrêterais. T'sais, même si les matchs sont de bonne heure le matin, je mets mon cadran pour les regarder. Puis là, de ne pas les avoir. Puis d'avoir le foutu match des étoiles en fin de semaine que personne ne regarde. On a perdu au change.
Effectivement. On a tous des beaux sujets d'Olympique.
Tu vois, moi, je la regarde, le match des étoiles, honnêtement.
C'est mauvais.
Je comprends pas tout le hate qu'il y a envers le match des étoiles.
Moi, j'ai perdu l'intérêt, mais quand j'étais jeune, je trouvais que c'était la meilleure fin de semaine de l'année. Fait que je comprends que c'est pour les kids, puis on fait ça pour les kids, puis que le spectacle, tu sais, comme là, il va y avoir des épreuves un peu fucked up aussi, tu sais. La Ligue nationale, au moins ça, là, il essaie quand même de se renouveler. Tant qu'à avoir un événement qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de conséquences, au moins, tu sais, il essaie de faire des affaires spéciales. Il faut lui donner ça. Là. Il essaie, puis à tous les années, c'est pas tout le temps la même patente. Là.
Mais je trouve que ça l'a décroché, c'est que c'est plus les étoiles. Tu sais, au début, il y avait les gagnants de la Coupe Stanley, puis contre le reste du monde. Tu sais, il y a eu plusieurs événements. Puis à un moment donné aussi, c'était les superstars, c'était les joueurs qui étaient les meilleurs dans la ligue. Là, aujourd'hui, puis on en a déjà parlé, mais il y a des votes de participation là, parce que chaque équipe, il faut qu'il soit représenté. T'sais, Nick Suzuki qui est là-bas, Chris, ça n'a pas de bon sens. Adrian Kempe à Los Angeles, qui a 26 points en 42 games. C'est une étoile, puis là, c'est le NHL sur Instagram. Mais des posts étoile Campy All-Star. Mais tu sais, au final, c'est pas une superstar de la ligue là, qui se ramasse là-bas. Là.
Fait que, ah, il y en a plusieurs des comme ça.
Il y en a plusieurs des comme ça.
Moi, ça, je suis pas d'accord avec le fait qu'il faut absolument qu'il y ait un joueur de chaque équipe qui soit là. Puis tu sais, c'est pas du hate gratuit, là, mais tu parles de Campy, mais tu sais, on a un exemple calissement pas loin aussi. Là, Suzuki, il n'y a crissement ben, pas d'affaires là. Là
ça a passé proche de Campoli. Pas Campoli.
Chris Whiteman. En 2012, oui.
Non, Whiteman.
Mais là, en ce moment.
Même affaire. Les deux sont pareils.
Il est où le lien entre Whiteman et Campoli?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Brain fart, là. Je m'excuse, gang.
Oh, mais non, c'est ça. Il n'y a pas d'affaires là. Pas en tout. Puis, tu sais, c'est quasiment. Misérable parce qu'il va faire une épreuve, pis c'est genre l'épreuve fucked up de genre il va lancer n'importe où. Tu sais, c'est pas genre le gars, il va faire le hard shot ou le skating, mais anyway, il aurait pas été bon pour ça, là, mais tu sais, quelque chose d'intéressant, non. Puis il va faire. Il va passer là 30 secondes dans l'événement, puis that's it, là.
Ça fait comme 2 ans que je vous le dis que son patin est moyen, puis son shot est ordinaire aussi. Calisse l'est pas dans ces épreuves-là. Si, à part d'être celui qui fait les passes à celui qui a le hardest shot.
Mais, hey, parlant de hardest shot, là, je vais parler d'NHL sur Instagram, mais il montrait tout de suite qu'elle a participé au hardest shot. Puis là, c'est là que tu vois qu'il y a une astuce de coche entre avant, tu sais, quand tu avais les Shawa, les Shara, les Weber. Les, Weber,
les Campoli, même, hein? C'est...
les Campoli. Puis qui tapait le 106, 100, 108 000 à l'heure. Puis là, on voyait les statistiques des gars qui m'ont représenté. Puis c'est tout en bas du 100.
Oh, OK.
Leur ouais, hardest shot. Fait que tu dis, bah, OK, il va y avoir un gap. C'est pas là qu'on va voir des records battre. Tu sais, dans le temps que Shara battait le record de McInnes, puis Weber qui battait le record de Shara, puis tu sais, ces affaires-là. Là.
Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on est habitué à ça. Mais tu sais, honnêtement, il y avait. C'est parce que ça fait 20 ans que c'est le même, là, mais tu sais, tu avais tout le temps peut-être un des années, deux joueurs qui clenchaient le 100 000 à l'heure. Tu sais, sinon, les autres, ça va, tu sais, dans 98, 99, qui est carrément pas mauvais aussi. Là.
Ouais,
mais tu sais, c'est justement, tu sais, t'as eu IFRADY, après ça, t'as eu Chara. Après ça, là, tu sais, t'as eu Weber. Une passe de Weber aussi.
Ouais, McInnes.
Ouais, entre, c'est ça.
Entre Chara puis.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais t'avais tout le temps un gars qui était là puis que tout le monde attendait après ce gars-là parce qu'on savait qu'on aurait un show là. Mm-hmm. Mais, tu sais, il y a eu une ou deux années que je me rappelle pas c'était qui les gars, mais que je me rappelle qu'il y a eu comme une compétition. Tu sais, les deux gars étaient autour de 102, 103, puis là, il y en avait un qui a crissé à 106, 108. Là, tu faisais comme « Oh, fuck! »
Ouais, ouais.
Mais faut dire que ça représente quand même la transformation de la Ligue nationale dans une certaine mesure. Tu sais, les défenseurs, c'est un one-trick pony qui fait juste avoir une grosse crise de garnotte. C'est plus ça aujourd'hui, là. Tu sais, les meilleurs défenseurs aujourd'hui, c'est les Makar, c'est...
Les Fox.
Adam Fox, tu sais,
ouais.
Comme, ils n'ont jamais gagné un concours de le slapshot le plus fort. Là. Impossible. Non. C'est plus ça aujourd'hui, le défenseur typique. Fait que c'est normal aussi que les chiffres des étoiles pour le lancer le plus fort, ben, ou le plus rapide, ben, aient diminué aussi. Là.
Ah, puis tu sais, honnêtement, là, moi, je dois trouver que c'était probablement. À part les épreuves de goaler, là, tu sais, quand les goalers essayaient de scorer, que ça, c'était fucking lourd, là, mais...
Ah ouais.
C'était pas mal tout le temps les épreuves que j'aimais le moins, c'est le hardest shot, tu sais, parce que, tu sais, c'était comme... À quel point j'ai envie de voir 8 gars prendre 3 slap shots pendant 45 minutes, tu sais.
Ouais.
Tu sais, oui, c'est hot quand t'as le gars qui tape le 105, le 106, ben whatever, mais tu sais, ça dure une fraction de seconde, là, tu sais. Fait que c'est comme... Tu sais... Je trouve ça le fun qu'ils essayent d'innover. Comme là, je suis curieux de voir les deux nouvelles épreuves qu'il va y avoir sur la strip et whatever. Mais tu sais, justement, pour mettre les défenseurs de l'avant, fais-moi un genre de parcours que le gars s'en vient, puis là, il faut qu'il fasse un pivot, puis là, il recule, puis tu le times de même. Là, tu es dans une situation similaire à du jeu. Ça pourrait être intéressant, tu sais. Une genre de course de même, tu sais, le défenseur qui revient, puis là, il fait le pivot, puis tu sais, jusque dans le filet ou ben whatever, puis là, tu sais, time, ça finit là, pour que ça ressemble à des situations de jeu, mais tu sais, le hard shot, on s'en
crie. Parce que c'est un peu l'équivalent dans le hockey du concours de dunk, mettons, à NBA, là. C'est juste que c'est pas ouais. Spectaculaire.
Non, mais le concours Non, mais tu sais, le concours de dunk, c'est... Comme dans le temps que tu avais le concours de breakaway, là. Tu sais, il y a du show, là, tu sais.
Oui, c'est
le
ça, je te dis.
Le concours de slam dunk, c'est ridicule, là. Tu sais, on a vu des affaires incroyables à travers les années.
Mais c'est ça, je te dis, c'est que le hockey se transpose pas super bien à faire des épreuves spectaculaires, comme c'est le cas. Tu sais, faut que tu fasses... les échapper contre le gardien de but avec des fins, des affaires de même, tu sais, parce que sinon, ouais, tu sais, même les tirs de précision, on en a vu, là, des gars qui font 1 en 8 sur les mires, là.
Chris, ouais. Comme... Ouais, surprenamment, ouais, il se ramasse là-bas, puis finalement, il rentre pas tant que ça, tu dis, je me souviens, je pense que c'était-tu John Tavares ou un enfant de même, puis t'en as comme, crème, lui, il va l'avoir solide, je pense qu'il y avait eu, c'est ça, 1 en 8.
Je pense que c'est Chris Campoli qui avait fait 1 en 8.
Chris Campoli.
Qu'est-ce que vous pensez de Manon Réaume qui, puis les filles au match des étoiles, tu sais, là, on commence à être habitué, entre guillemets, d'avoir les femmes, mais là, d'avoir une légende, tu sais, ish du hockey qui va être là, encore une fois, c'est dans la volonté de la Ligue nationale de se renouveler puis de présenter un match des étoiles qui est toujours un peu transformé.
Ben, tu sais, quand ils ont, selon moi, tant que ça fait pas. sais, qui n'ont pas un rôle de cheerleader. Tu sais, quand ils invitent du monde puis ils font des annonces, puis finalement, ils sont quasiment là au bout du banc à juste ouvrir la porte. Tu sais, ça, je trouve ça un peu plus lamentable. Mais je pense que Manon Réaume, elle va être dans les buts pour le concours d'échappée. C'est ça que j'ai vu?
C'est pas l'affaire de La Fontaine, me semble. Avec,
Ah, peut-être aussi. Mais tout ça pour dire qu'il a été impliqué dans les activités.
C'est de La Fontaine en bikini, c'est quoi?
C'est ouais, weird.
C'est ça. T'imagines, on est comme... Ah ouais,
un vieux bon. Call de 1998.
Ouais, ouais, j'espère que c'est pas des cheerleaders à sort de La Fontaine. Tabardin!
Ouais, c'est ça, tu sais.
Non, mais tu sais, moi, dans un format de même, si tu veux impliquer les filles, bon, cette année, ça fonctionnerait pas, mais tu sais, tout le monde l'a dit, ben, tu le match des étoiles, c'est pas comme du vrai hockey, il y a pas de contact. Hein. Chris, embarque les filles de Team USA puis de Team Canada, monte-leur un club, fais-les jouer contre les gars, tu sais.
Hey,
il y a pas de contact.
On a vu Team Canada jouer contre les U16 du Québec, puis ils se sont fait traverser.
Ouais, mais il y avait quand même du contact, puis tout le kit.
Ben non, il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de contact dans la game U16.
Il y a beaucoup de contact à comparer de
une game pas de contact.
Qu'est-ce que ça serait à une game des étoiles, là,
ouais, non, je comprends ça. Mais tu sais, juste pour te dire, quand tu perçus le.
Personnes qui se sont touchées depuis 1993. Là. Puis 4, c'était accidentel en retournant au banc.
Ouais. Mais, ben oui, ça pourrait être une option, là, mais. Ouais. Mais je pense qu'il y a.
Ou Chris, une fille dans chaque club. Tu sais, tu pognes les Marie-Philippe Poulin, tu sais, les top, là. Puis tu Chris, une fille dans chaque équipe de chaque division. Tu sais, t'en calais une ou deux là-dedans. C'est... Écoute. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour vrai, là. Moi, j'aimerais ça voir Marie-Philippe Poulin avec McDavid ou McKinnon ou ben whatever. Là, j'aimerais ça voir cette fille-là avec ces gars-là.
Changement un petit peu d'angle. Là. À quand, mettons, un match des étoiles en extérieur? Ça pourrait être cool.
Je pense qu'il n'avait parlé, si je ne me trompe pas.
Ben, tu fais ton second series, puis whatever, puis dans la même fin de semaine, tu fais le match des étoiles. Puis moi, là, je triperais. Tu sais, mettons là, ton idée, là, tu disais là, les filles et tout, là, mixé. Tu mets les bâtons dans le milieu, tous les attaquants font en pige. Tu sais, au hasard, les bâtons. Après ça, les défenseurs, tu mixes de même. Puis d'avoir vraiment. Le dernier joueur choisi va se ramasser avec un char. Là. Juste au hasard, les bâtons. Puis on mixe de même à la va comme je te pousse. Là.
Ouais, mais il y a un détail que tu oublies dans l'idée que tu avances. Ben, ils ont des gilets à vendre.
Ouais, ben tu peux le faire à l'avance.
Si ouais, mais tu sais, c'est pas la même. Pour que ça marche, faut que tu le fasses live.
Ouais.
Faut que tu le fasses live. Tu peux pas faire ça avant parce que là, tu vas faire comme.
Ah, mais ils vont vendre les chandails après ou. Ça se vend un peu avant quand même, ouais.
Ben, ouais, il y a du promoting avant, là, mais.
Ouais, c'est ça, il y a comme beaucoup de choses.
Non, ça
sera
pas évident, là. Non.
Mais je dis pas que ton idée est mauvaise. Moi, ça fait plusieurs années.
Le hockey dans la rue, là, tu sais, mais niveau Ligue nationale, puis. Ah ouais.
Tu sais, dans une place, justement, tu sais, comme l'année passée, quand ils ont fait ça à Lake Tahoe.
C'était malade.
Magnifique.
Hein? Ben oui.
Tu sais, c'est comme Chris. OK, c'est quand même cool que tu fasses ça là. Puis, tu sais, cette game-là, c'était correct parce que, tu sais, t'avais quand même, tu sais, l'avalanche. Mais, tu sais, moi, quand tu me donnes une calice de game à Buffalo avec Buffalo, c'est comme, man, calice. Mais nous, une game dehors, mais avec tous tes meilleurs éléments, ça serait fou.
D'ailleurs, tu me fais passer, là. C'est ridicule, rendu là, que Montréal n'a toujours pas eu son match extérieur. À Montréal.
Où tu veux faire ça?
C'est sûr que le stade n'est pas évident, là.
La seule place que tu peux faire ça, à la limite, c'est le stade Percival Molson.
Ben oui.
Ou le stade Saputo. Mais tu sais, c'est des stades de 20 000 personnes.
Ben oui.
Ce qui n'est pas assez pour cet événement-là, pour la NHL.
Non, c'est sûr qu'ils visent le 80 habituellement, là, à peu près. Là.
Ouais, ou tu sais, dans le pire, tu sais, un 40 000 ou ben whatever. Tu sais, comme quand ils ont fait ça à Edmonton, quand ils ont fait ça à Winnipeg. Tu sais, que tu as 40-45 000 personnes dans le stade. Ils peuvent pas rentabiliser ça, j'imagine, avec 17 000 billets ou, tu sais.
Ça reste quand même une hérésie que Montréal n'a pas eu de game extérieur. Là. Ça me fait...
à Montréal, à part du stade Percival Molson ou du stade Saputo, les seuls autres endroits, tu as soit l'ancien site de l'Hippodrome, que U2 avait fait un show-là, qui avait bâti des estrades justement pour 30-40 000 personnes. Mais encore là, c'est du gros cash. Ou sinon, tu as genre le circuit Gilles Villeneuve, l'île Notre-Dame, l'île Sainte-Hélène.
Ça peut faire un esti de beau setup, ça.
Ouais, mais tu sais, il faut que tu te montes des estrades en esti.
Ben, tu as une partie d'estrade qui existe déjà, tu sais, tu peux...
oui, mais c'est parce que ça tente.
Ah ouais,
mais pensez-vous que un des problèmes majeurs, c'est le fait que c'est le dollar canadien aussi? Tu sais, j'imagine de faire l'événement à US, aux États-Unis, c'est pas mal plus avantageux que de... Tu sais, tu peux pas vendre tes billets si cher que ça au Québec, là.
Ouais, mais tu sais, t'as le fait aussi que... Tu sais, regarde aussitôt qu'ils ont fait ça au Canada, c'est une classique héritage. Puis tu sais, quand c'est aux États-Unis, c'est le Winter Classic. Puis tu sais, c'est présenté à ABC, NBC, les gros réseaux. Tandis que quand c'est ici, là, au Canada, là, ABC, NBC, ils n'envoient pas personne.
Mais non, c'est ça.
Tu sais, il y a RDS puis la CBC qui sont là, puis c'est tout, là.
C'est un autre game. C'est un autre niveau. Parlant d'un autre game, les Coyotes de l'Arizona, ils jouent-ils encore dans la Ligue nationale? Ou parce que là, ils sont rendus...
universitaires.
Ben, écoute, c'est parce que le cégep de Verdun est prêt à accueillir. Il est rendu là, sans offense au cégep de Verdun. Puis je sais même pas s'il y a un aréna. Là, c'est pas... Vous comprenez l'image. Créer 5000 places.
En fait, ma question, c'est plus, y a-t-il un cégep à Verdun?
Aucune idée. C'est pas important.
Parce que non, il y en a pas.
Il y en a pas. Bon.
Il y a l'auditorium de Verdun.
De Verdun, ouais.
Mais c'est pas un cégep.
Mais tu sais, on parle de 5000 places, là, l'endroit où est-ce qu'ils vont aller, qui pourrait être relocalisé pour 3 ou 4 ans, là, le temps de construire d'autres choses. Mais ça, ce 5000 places-là, c'est dans sa forme actuelle. Moi, j'entends dire que cette place-là, là, ce building-là, il est pas prêt à avoir des caméras de télé. Là. Faut que tu coupes les balles. Mais
c'est clair. Là, c'est, imaginez-vous qu'un club de la Ligue nationale, là, ils ont fait une belle amphithéâtre à Trois-Rivières. Là. Mais dis-toi que c'est cet amphithéâtre-là, à peu près, parce que je pense que c'est comme 4 000, 4 500 places à Trois-Rivières. Puis enlève le fait qu'il est neuf, qu'il y a une couple d'années déjà. Puis comme tu dis, faire rentrer un réseau de télévision qui n'est pas dedans, anyway.
Moi, là, ça me fait penser, Vandal, il n'est pas là, là, il ne pourra pas acquiescer, mais les Saguenay de Chicoutimi, ça fait le monde là, avec les billets de saison, ça les fait tout le temps chier quand la télé est là, parce que le meilleur spot pour mettre les caméras, ça enlève des bandes de billets de saison. Fait que quand le match est diffusé à RDS, mettons, ou à TVA Sport, ça fait chier le public local parce que tu perds des places, pis c'est les bonnes places des billets de saison, tu sais. Fait que là, tu es en train de me dire que les bonnes places de l'aréna de marde, en plus, vont être amputées. Youpidou, j'ai le goût d'aller voir du...
Hey, mais à quel point que la Ligue nationale, ils sont pas capables d'enlever le style plaster, là, et le parce que ça pète de partout, là, l'Arizona, puis c'est une risée. Là. Comment tu peux avoir une équipe sportive à ce point-là, depuis le début de sa création, qui a jamais eu un fanbase depuis ce temps-là, parce qu'ils se battent pour encore vendre des billets. Chris, je pense que les hot dogs te coûtent plus cher que le billet que tu payes pour la game. Là. C'est, ça n'a aucun crise de sens. Puis là, c'est drôle, mais qu'enfin, les propriétaires qu'on a vus commencent à être un peu en tabarnouche parce que c'est des revenus que tu perds, même si finalement, la région n'en font pas plus. Là. Ils ont de la misère à mettre 5000 personnes dans leur vrai amphithéâtre, fait qu'il n'y en aura pas plus dans l'autre place. Là, mais c'est incroyable que tu dises qu'une équipe sportive à ce point médiocre en termes de jeu sur la glace, mais financièrement, la LNH s'entête à la garder là. Puis je comprends le fait qu'on veut développer le marché puis c'est un des plus gros marchés américains. Mais quand ton équipe de la place passe en arrière des courses de tracteurs, c'est que tu as un crise de problème pareil. Là. C'est qu'il n'y a rien à développer là, pantoute. Là.
Mais tu sais, moi, je pense plus que dans le fond, là, puis tu sais ça, on a jasé un peu sur le show d'hier, mais c'est le... Si on voulait un signe que tant que Batman va être là, il n'y aura jamais de club à Québec, tu l'as, là, OK? Mais le vrai plan, c'est moi, je pense qu'ils font juste s'acheter du temps parce que Houston n'est pas prêt encore. Parce que c'est écrit dans le ciel que ça va s'en aller à Houston, là. Mm-hmm. Ouais. C'est une énorme ville. Est-ce que ça va marcher? J'ai des hosties de doutes que ça va fonctionner. Mais Gary, il est convaincu. Quoi.
Mais il y a plus de... J'ai l'impression, là, parce que tu as déjà les Stars qui sont quand même un succès dans le sud. Tu sais, il y a une accoutumance à avoir du hockey dans le paysage. Mais l'Arizona, il n'y en a pas. Là, alentour, il n'y a pas rien qui avait déjà instauré le goût du hockey dans ce coin-là. Je regardais les billets pour le prochain match. C'est contre Tampa Bay le 11 février local, là, du côté de l'Arizona. Tu peux avoir des billets à 16$. US, là, mais 16$ pareil. T'es dans le pit, puis il n'y a personne qui va te boucher à vue. Fait que c'est génial. Mais parce qu'il n'y a pas un esticha qui va être en avant de toi. Mais...
5000 billets à 16$, hein? Un gros cash.
Hey, ça n'a pas de sens.
Tu payes même pas les hot dogs de Phil Kessel.
Hey, t'imagines, vraiment... les billets du Rocket sont plus chers que ça, là.
Ouais.
Pour un club de l'année américaine, c'est plus cher que... Puis même, je suis pas mal sûr que les billets des Lions de Trois-Rivières sont plus chers.
Ouais, mais en partant, là, juste les frais de billets de Evenco te coûtent plus que 16$.
C'est vrai, pareil.
Ouais, ouais.
Tu sais, gars, si... J'ai vu ça passer, là, parce que, tu sais, mon gars trippe sur le basket. Fait que là, j'ai fait comme, ah, les Harlem Globetrotters sont à Place Belle puis sont au Centre Belle. En mars ou en avril, je fais comme, Chris, ça pourrait quand même être cool, tu sais. Là, je fais comme, c'est 29$ le billet, c'est correct, tu sais. Fait que là, j'arrive sur le site, puis finalement, c'est 48 ou 49$ le billet, ce qui est quand même pas si pire, mais ça veut dire que t'as fucking 20$ de frais.
Ah, t'es doublé, là.
Pour des billets que tu m'enverras pas, là. Qui vont être dans mon cellulaire, en plus. Ça m'a pas envie de les printer, de prendre un thème comme dans le temps, puis de me les envoyer. Hostie!
Puis, on s'entend qu'il y a un système automatisé, là. Moi, là, je donne cet exemple-là. Mon Kiro, mettons, là. Je peux aller sur le site web, choisir ma plage horaire, blablabla, le rendez-vous est setupé. Ça m'envoie une alerte courriel. Mon ticket, là, il est là, là.
Il me charge. Il est automatisé.
Pas, il me charge pas des hosties de frais de ticket, calice.
Mais non, mais non, mais non. Tu sais, dans le fond, c'est un frais de gestion, mais il n'y a aucune crise de gestion.
Il n'y a pas de gestion.
Ben, c'est ça. Tu sais, la gestion est avant, dans le sens où tu manages avec qu'est-ce qui s'en vient comme événement. Mais comment que, en tant qu'entreprise, tu es comme, hey, on va faire venir un événement, on va charger au monde l'événement, mais en plus, on va être payé pour travailler fort pour aller chercher l'événement. C'est comme,
t'es censé faire du profit sur ton événement.
Ben c'est ça.
Tu sais, une dizaine d'années, une douzaine d'années, là, les Cowboys Fringants avaient fait des shows genre le 30, le 31 décembre au Centre Bell. Ça fait un 10 ou 12 ans.
C'est pas dans les deux dernières années,
j'ai fait comme, all right, c'est beau. T'sais, comme on va y aller, ma blonde va y aller, comme good. Fait que là, je m'en vais sur le site pour acheter les billets, sur le site d'Evenco. Puis, c'était annoncé que les billets étaient entre 5 et 20 piastres. Mais tabarnak, un billet à 5 piastres, ça me coûtait 22 piastres. Les Cowboys prennent 5 piastres. Ils ont loué un fucking stage, puis du son, puis de tout, là. Ils sont capables de faire ça à 5 piastres. Puis toi, pour me printer mon billet, tu me charges 17 fucking piastres. Pour chaque billet, là, pas par transaction. À la limite, tu me fais ça par transaction. All right, tu sais. Non, j'achète deux billets. J'ai 10 piastres de billets, mais ça me coûte 45 piastres. Pas normal, calice! Excusez, Chris, on est parti sur Iron sur
les billets.
Fuck you, Jeff Molson. Fuck you!
Jeff Molson. D'ailleurs, aujourd'hui, ben en fait, hier, j'ai écouté le podcast Tellement Hockey de Radio-Canada, puis Martin Leclerc parlait d'une anecdote.
C'est pas des balados qu'ils ont, eux autres?
Oui, c'est des balados, je m'excuse.
Ouais, c'est ça, c'est pas des podcasts.
Non. il parlait, dans le fond, de Claude Julien, comme quoi, qui était super généreux, tout ça, puis il y avait une anecdote pour souligner ça, puis tu vas voir le lien avec Evenco puis Jeff.
Dis-moi pas qu'il a partagé ses chips avec quelqu'un.
Non, c'était pas ses chips. Non,
ah, OK, elle me semblait aussi.
Jeff Molson, en fait, le Canadien de Montréal, au début de la pandémie, a supprimé certains emplois, congédié plein de monde pour diminuer les frais, dont le poste de Dominique Saillant, qui était l'ancien directeur des communications. Quand Claude Julien a appris ça, il a appelé directement Jeff Molson. Il a demandé, Dominique, il gagne combien? Coupe ça de mon salaire, faut qu'il reste dans l'organisation, ça fait 25 ans qu'il est dans l'équipe. Sa job est importante. On va s'arranger. Et Jeff a refusé. Je pense que légalement, je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient accepter, là, mais ça en dit quand même long sur Claude Julien, sur la générosité et le fait que c'est une bonne personne.
Ça en dit fucking long
quand
sur
même, Jeff Molson
aussi. Ah, okay? Comment Eduardo a dit ça? Parce que là, il m'a glorifié mon comme el culo. C'est comme el culo con una cuchara.
Fait comme
mange le cul avec une cuillère. Jeff.
Ah, ok, avec. Mais c'est ça, la
avec une cuillère en argent, évidemment.
Ben oui.
Ouais, ouais.
Parce qu'il est né avec une silver spoon dans le cul, lui, on le sait.
Fait que, ouais, c'est ça, ça m'a quand même. Tu sais, ça frappe l'imaginaire là, de dire, un, le gars, il est vraiment généreux, puis de deux, pas capable d'assumer un peu de perte ou, tu sais, de. Je sais pas, là, de la part du Canadien, c'était.
Ah, c'est pas moche.
Tu fais 25 ans, tu donnes ta vie. Tiens, on s'entend en plus, là. Directeur des communications du Canadien, c'est pas n'importe quoi, là. C'est de l'ouvrage. Tu mets pas juste ton 35 heures semaine.
Non, c'est clair.
Écoute, il y a eu une histoire de même qui avait sorti pendant la pandémie, là. Puis là, c'est juste plate parce que je me rappelle plus si c'est Giannis Antetokounmpo ou Zion Williamson que l'équipe, justement, avait remercié tout le staff qui vendait les hot dogs puis whatever. Puis lui, de sa poche, a payé les salaires de ses employés-là.
Ah ouais.
Puis, tu sais, on parle de deux. OK, oui, ils font 30, 40, 50 millions par année, mais ça reste que c'est des kids puis ils n'ont pas à faire ça, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons que oui, ça y a coûté un million, là, OK? Puis que tu me dis, ouais, mais Chris, il en fait 25, OK? Tu donnes-tu genre 5 % de ton salaire à un œuf de charité ou à...
Ouais, c'est ça.
Fuck all, tu sais.
Ben, puis tu sais, on parle, mettons, oui, OK, il fait beaucoup, 40, 50 millions, mais les propriétaires, c'est des milliardaires.
Ben oui.
Tu sais, c'est même pas la même game non plus entre le million et le milliard, là, on s'entend, là.
Fait que ça me fait capoter que, tu sais, qu'il y a des gars, justement, fait que, tu vois, ça me donne un peu de respect pour Claude Julien que j'ai jamais tant aimé. Fait que je te déteste pour ça, JB, merci. Mais
tu sais, on connaît l'entraîneur, mais l'homme, on le connaît pas tant que ça. Là.
Non,
c'est sûr, c'est une super bonne personne. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est une bonne personne en soi. C'est pas comme Michel Therrien.
Ouais, c'est ça.
Ouais, Michel Therrien, c'est une marde.
Tu sais, on dirait que Michel Therrien, tu le sais, c'est une marde en tant que personne. Mais Claude Julien, il avait l'air d'une gentille personne. Là.
Ouais, c'est comme, tu sais, j'ai écouté La Poche Bleue aussi, l'entrevue de Dominique Duchamp. Puis, comme, il a de l'air. Clairement d'un bon Jack, là. Tu sais, quoi qu'on n'en doute pas là, de ce qu'on voit dans les points de presse puis tout, mais tu sais, déjà plus dynamique, plus. T'sais, j'étais capable de l'écouter. Je suis pas capable d'écouter de Dominique Duchamp dans les points de presse d'entrevue de game, là. Mais là, tu sais, une demi-heure, 45 minutes, ça a super bien passé, là. Il est pas mal plus dynamique puis tout, mais il était pas en train de s'inquiéter. M'as-tu me mettre les pieds dans les plats puis me mettre dans la merde avec un mot de travers?
Ben, c'est ça.
Ça paraît, là.
Ouais, c'est pas la même game.
C'est pas la même game. Canadien de Montréal affiche, je l'ai pas dit au début du show, là, 8-29, 7-31e dans la Ligue nationale. Pourcentage de victoire, 2.61. On a eu le point de presse de Carey Price lors du dernier match, c'est ça, dimanche, qu'il y a eu le point de presse. Ouais. C'était le dernier match avant la pause. De Carey Price, j'ai le goût de vous demander qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce point de presse-là. Nick, vas-y donc.
Ben, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Carey Price n'a pas lancé la serviette. Là. Ça a l'air d'être vraiment plein de points d'interrogation à savoir s'il va revenir cette année, si c'est juste l'année prochaine qu'on va le revoir. Mais ce qui m'a surpris, c'est que il a pas laissé sous-entendre qu'il y avait des possibilités de partir. Tu sais, c'était vraiment... moi, je me motive avec le fait de reporter ce chandail-là, puis ma famille, on est là depuis 10 ans, puis je veux rester ici, puis ma famille... Puis tout de suite après, tu sais, on a parlé souvent d'Angela Price, mais Angela Price qui a fait un post sur les réseaux sociaux comme quoi qu'elle avait hâte. C'est une photo de Carey Price qui est sur le bord de la bande dans un warm-up avec sa fille qui donne un bisou à travers la baie vitrée. Puis, tu sais, elle aussi, elle écrivait comme quoi que ça y manque ce moment-là. Puis elle a tellement hâte de revoir Carey avec l'uniforme du Canadien. Puis je me dis, tu sais, on avait des petites spéculations par rapport au Price, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du repêchage d'expansion, si c'était eux autres qui voulaient partir ou tu sais, si ils ont pris la décision de lever la clause de non-échange à cause de ça, puis qu'ils voulaient peut-être se rapprocher de Seattle. Là. Il y avait des rumeurs qui parlaient de ça. Puis là, de voir ce que Carey Price dit là dans le point de presse, moi, ça m'a surpris. T'sais, il a vraiment pitché ça dans le cours du Canadien. Puis c'est comme si vous me tassez de là, c'est votre faute à vous autres. Là. Fait que ça, c'est, je te dirais que c'est pas mal la partie qui m'a le plus surpris.
Mais là, tu peux pas me dire, Nick, que t'es complètement rassuré que ce gars-là va rejouer.
Non,
il n'y a rien fait pour rassurer qui que ce soit. Là. Je pense sincèrement que ce gars-là est lui-même complètement dans le néant à savoir s'il va être capable de rejouer. Mais à part dire qu'il va refaire une rehab ou ces affaires-là parce que c'est ma job, j'ai pas senti le cœur à « faut absolument que je revienne, je vais revenir, je vais trouver une façon ». Mais non, on va regarder d'ici deux semaines, on va savoir ce qu'il y en a, puis s'il faut recommencer, on va recommencer. Comme. Il m'a pas vendu du rêve, là.
Non, c'est un cercle vicieux que depuis le début, tu sais. C'est drôle, pareil, qu'on a commencé, hein. Ah, Carey Price, l'opération a super bien été. Ah, Carey Price va être là au camp d'entraînement. Ah, Carey Price, il va être finalement là au premier match de la saison. Ah, Carey Price, ben là, il y a eu la rehab. Ah, Carey Price, il va revenir probablement début de décembre. Ah, Carey Price va revenir après le temps des fêtes. Ah, Carey Price va être là l'année prochaine. Ah, Carey Price va être là. Et puis là, on est rendu au match des étoiles. Il n'y a rien de prêt. Il n'y a rien de proche d'être prêt, là.
Puis là, on est rendu à est-ce qu'il va recouler un jour?
Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est plate, là. Mais tu sais, Carey Price est rendu à 34 ans. C'est une deuxième blessure au même genou, si je ne me trompe pas, depuis le début de sa carrière.
Blessure majeure.
À 30, ben, blessure majeure, grosse opération. 34 ans, l'année prochaine, 35. Le compteur tourne. Là. Il ne reste plus beaucoup de saisons devant lui. Puis c'est plate, mais un gap d'une année complète où ce que tu ne goals pas, j'ai l'impression que c'est comme si tu n'en avais pas goalé trois rendu à 34 ans. T'sais.
C'est une partie de réflexe. Hein. Ça se perd, ça, s'ils ne sont pas aiguisés à chaque jour. Comme
non, mais clairement, il était... comme il doit faire les exercices, de lance la balle au mur, puis whatever, là, tous les exercices qu'ils font pour le réflexe, j'imagine qu'ils se gardent ça à aiguiser. Là,
j'espère, mais c'est pas une balle au mur, c'est pas une game de la Ligue nationale, mettons.
Non, mais juste esquiver toutes les questions par rapport à sa faute de femme. ça te garde les réflexes aiguisés.
Ça te garde sharp, c'est un reste de temps. J'ai écouté la game Islanders de New York contre les Sénateurs d'Ottawa qui était lundi, je pense. Et sur la glace, j'ai vu quelqu'un de bien impressionnant par sa longévité. J'ai vu Zdeno Chara. Y a-t-il encore du monde qui dit que Weber va jouer aussi vieux que Chara? Je me demande sur où ce monde-là.
D'après moi, ils sont déjà couchés à cette heure-là.
Parce que, tu sais, Kent Hughes a fait bien des entrevues. Hi, Kent! Fait que Kent est allé faire des entrevues un peu partout. Puis,
hey, faut le dire, je sais pas si c'est Chantal ou la nouvelle gestion, peu importe, là, mais il en a fait en tabarnak des entrevues.
Il est partout, là.
Puis il en a dit du stock, là.
Il en a dit ça.
Il en a dit, c'est clair.
C'est tellement Chantal que Dominique Duchamp est allé dans un podcast, décontracte et tout, en pleine saison. Et Burroughs est allé dans les médias aussi. C'est quand la dernière fois qu'un entraîneur adjoint du Canadien de Montréal a parlé des médias?
Ben Chris, la première semaine, moi je me rappelle, ça m'avait marqué, là, la première semaine que Chantal est arrivé. Genre deux jours après, Raphaël Harvey-Pinard, qui était pogné chez eux avec la COVID, était en entrevue à JC. C'est quand la dernière fois que tu avais un joueur du Canadien?
En saison.
En entrevue pendant la saison dans un show de même. Chris sont obligés d'aller parler à Huberdeau puis à Antoine Roussel. Puis à, parce qu'ils sont pas capables d'avoir personne du Canadien. Puis là, tabarnak, il était là, puis il jasait de comment ça se passe, puis... Moi, j'étais flabbergasté. J'étais comme, Chris, c'est déjà l'effet de Chantal. Tu sais.
Ah, c'est mer et monde de différence. Puis la transparence de Kent. Hi, Kent! C'est majeur.
Tu vas
gosser Sylvain. Fait que, ouais, c'est ça, la transparence. Kent, je sais pas, tu sais, si c'est l'inexpérience ou quoi que ce soit, mais. T'sais, il a parlé en entrevue qu'il ne savait pas si Price il allait rejouer dans sa vie au hockey dans la Ligue nationale. C'est quand même majeur que ton DG dise ça, qu'il ne le savait pas. Et il a dit aussi qu'il se demande si Weber pourrait occuper un poste au sein de l'organisation. Là, À un moment donné, je comprends là qu'il est payé en tant que joueur puis qu'il n'a pas pris sa retraite officiellement, même si Drouin dit le contraire. Puis que ça fait en sorte que ça paye puis tout, puis qu'il n'y a pas les pénalités là, qui s'appliquent en cas de retraite. Mais s'il décroche un autre job que joueur dans la Ligue nationale, tu peux pas dire qu'il est encore un joueur dans la Ligue nationale. Là. Moi, si je suis Nashville, j'ai la chienne, c'est un instant, là.
Ben, un peu comme Chris Pronger. Chris Pronger, c'était la même chose. Il était encore payé comme joueur, mais il était rendu dépisteur.
Ah ouais, tu peux occuper les...
Ben, écoute, est-ce que c'était unofficial qui occupait ce rôle-là, peut-être, là, dans les papiers quelque part, mais...
Ben, il n'y avait pas de pénalité, si le... En tout cas, je sais pas. Moi, ce dossier-là, Machal, c'est un petit temps.
Je sais, parce que tu reviens souvent à ce dossier-là. Oui.
mais moi, ce qui me gosse vraiment de ce dossier-là, c'est... Attends, comment dire ça sans avoir l'air d'un hater, là, mais comment ça que ce gars-là qui est supposé, tu sais, être le teammate ultime, le leader ultime, le kit, quoi qu'il a fait comme bah, ben la saison commence, je recalisse mon camp au BC. Salut, bande de caves.
La seule fois qu'il a vu le club, c'était Seattle, tu sais, c'est comme...
Il me semble que là, Chris qui en aurait besoin de son aura, me semble, tu sais, ouais. Qui rentre dans la chambre, puis qui, tu sais, puis qui lève Petrie, puis qui, tu sais, puis qu'il l'accroche en haut du vestiaire. Toi, tu restes là, mon tabarnak, jusqu'à temps que tu aies des couilles et que ça te tente de jouer. Tu sais. Chris, je ne comprends pas.
Non.
Et.
Aux dernières nouvelles, il y a encore le C. Là, c'est le capitaine du club là, quand tu regardes.
Puis il est quand même encore fucking payé par le Canadien. Techniquement, c'est un joueur du Canadien. Quand les joueurs se blessent de même, là, est-ce que ordinairement, là, un gars qui est blessé, qui est sur le long-term injury, là, 2-3 mois, là. Est-ce qu'il reste avec l'équipe? Est-ce que Kucherov va retourner en Russie quand il a été blessé l'année passée?
Ben non, parce qu'il faut des suivis pour le guérir. Là, il n'y a clairement pas de suivi pour guérir
Shea.
Ben,
c'est ça, c'est n'importe quoi.
T'sais, ça en dit long. Là. Dans la même entrevue là, de Duchamp à la Poche Bleue, il disait que Corey Perry et Shea Weber, à tous les jours, il les avait dans son bureau pour jaser avec eux autres, dire le plan pour que le message passe par lui, par le coaching staff, mais aussi par ces gars-là. Les deux piliers de l'organisation, côté leadership, c'était Weber et Perry, au point tel que quand Caulfield il était redescendu dans la Ligue américaine cette année, qui l'a appelé pour le rassurer?
Corey Perry.
Corey Perry qui est rendu
de fucking Tampa.
Ça te donne-tu l'idée qu'il manque de leadership? Puis je le sais, là, on a fait bien des jokes sur l'aura de Shea parce que c'était donc le pain et le beurre de Marc Bergevin, mais ça a un impact du leadership dans la Ligue nationale, surtout quand la chaîne débarque.
Mais c'est comme tu dis, c'est la graisse, la colle, le ciment, c'est ce qui unifie quand même une équipe. Parce que tu sais, veux pas, c'est mettons 21, 23 boys sur la testostérone d'une certaine façon. Fait les émotions, les gaffes, les après-matchs, les sorties d'un club. Tu sais, il y a bien des affaires, des facteurs externes dans une équipe. Les chicanes entre boys aussi, là, ça arrive, là. Puis qu'est-ce qui atténue ou qui permet une cohésion de tout ça? C'est le leadership de certains joueurs qui agit comme un papa ou qui agit comme un policier ou tu sais qui. Fait que c'est important dans un club. Puis c'est comme tu dis, c'est d'avoir perdu lui et Perry en même temps dans une saison. C'est fou. Là. Puis avec quoi tu as patché ça? Avec Hoffman? Avec Vorak, il n'y a pas l'air du gars le plus.
Non, ça n'a pas l'air de faire grand-chose, lui, de perdre. Il y a de la trop habitué.
Mais oui, tu as toute l'histoire de que Shea et Perry sont plus là, ce qui est déjà énorme pour le rôle qu'ils jouaient. Mais en plus, tu as deux de tes gars qui ont un A sur le chandail qui sont des hosties boudeuses depuis le début de cette année-là, puis que c'est pas normal. Si ceux qui ont des A à défaut d'avoir un C, puis il y a un de ces deux gars-là que tout le monde voyait comme un capitaine, là, tu sais, puis asti que ça n'en est pas un. Ça n'en est vraiment pas un. Je comprends juste pas. C'est vrai, j'ai vu ça hier à l'antichambre. Il y avait une bonne question, puis il m'a voulu la poser. Est-ce que le prochain capitaine du Canadien est avec l'équipe en ce moment?
Je pense pas.
Moi non plus.
Moi aussi, je pense pas. clairement, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui parle de Suzuki.
Je le vois pas.
Tu ne rendrais pas service du colissant ici la première année de son contrat à 8 millions.
Non. Tu vas le chienner tu comme Koivu.
Tu vas l'étouffer.
Je sais que
tu
n'es pas d'accord. Tu es zéro un fan de Sakou Koivu. Mais... Puis, en fait, je vais prendre l'exemple plus de Pacioretty. C'est encore plus flagrant. C'est que quand tu es capitaine, tu es obligé de jaser avec les médias tout le temps. Puis quand tu es un attaquant, encore plus quand tu es un buteur, faut que tu marques des buts, sinon tout le monde te le remet d'en face. Quand tout le monde te le remet d'en face puis tu es en avant des médias à tous les jours, imagine la pression.
Puis que tu es le joueur le mieux payé de l'équipe.
Si tu peux éviter au maximum de pression, surtout à Montréal, fais-les. Le prochain capitaine du Canadien de Montréal, pour moi, doit être un défenseur justement pour éviter ça. Ça enlève cette pression-là de devoir produire offensivement.
C'est un third ou fourth liner. Là, ça arrive, là. Il y a des capitaines que c'est des sports, le cheval de tête. Puis,
Bob Gainey.
C'était pas
un de tes deux premiers centres. Là. Ça a été un troisième centre toute sa carrière. Puis, bon, là, son gilet est retiré parce que c'était
une élite de cette position-là aussi. Mais...
Non, mais Chris, on va se dire les vraies affaires. Là, okay? J'ai beaucoup de respect pour la carrière de Bob Gainey, mais de là à accrocher son gilet en haut, tu sais, come on. Mais bref.
Êtes-vous d'accord, les auditeurs?
Redéfini.
Bob Gainey, on décroche du plafond ou on le laisse là? C'est...
Moi, je ne veux rien répondre à cette question.
Puis surtout qu'il était là avant... Avant
Émile Bouchard puis des affaires de même, là,
ouais tu sais que c'est comme tabarnak, tu sais, t'as les deux autres du Big Three en haut, what the fuck que Pointu est pas là, puis son numéro est déjà retiré en plus parce qu'il a déjà été retiré pour Boom Boom puis pour quelqu'un d'autre, fait que pourquoi, tu sais, bref, mais tout ça pour revenir parce que là je suis parti sur une dérape de... mais non, t'as pas besoin d'avoir un gars de premier trio. Tu sais, justement, souvent, c'est des gars qui ont du grit qui vont exercer ce genre de leadership-là. Là.
Mais il faut que ce soit un gars qui va... Attends, Nick, ça va te prendre un gars, si c'est ce genre-là, tu sais, un gars de 3 ou 4, ça te prend quand même un gars qui va être là longtemps. Puis actuellement, tes gars de 3 puis 4 dans la Ligue nationale, c'est pas censé être des gros salariés, donc c'est des malléables dans ton alignement. Fait que je vois mal aujourd'hui comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble. Mais je peux me tromper, là.
Non, mais je comprends ce que tu dis, puis t'as raison aussi, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que non, on crisse pas ça sur le dos à Suzuki. Puis moi, je suis d'accord avec vous autres que je pense pas que le prochain capitaine est avec l'équipe en ce moment. S'il est là, on a vraiment un esti de problème, honnêtement.
Ouais. Puis ça va être juste parce qu'on veut mettre un C sur un chandail de quelqu'un, parce que en termes de leadership, tu peux pas avoir une équipe qui a une lacune leadership actuellement, puis te dire, ouais, là-dedans, il y en a un que, tu sais, lui, il était gêné cette année, mais là, il va le C l'année prochaine, et là, il va être sa coche. Mais non, si Chris, il n'y a pas personne qui l'a pogné le leadership là, naturellement, c'est qu'il n'y a pas personne dans l'équipe qui est prête à ça. Parce que c'est pas une question d'âge, là. Puis, tu sais, Guy Boucher, il en parle souvent, mais un des gars qui a été le plus impressionné en termes de leadership, c'est Brady Tkachuk à Ottawa. Puis, ça a l'air qu'à son année de 18 ans, il a pogné le leadership comme un gars comme Sidney Crosby quand il est rentré dans la ligue, que, tu sais, il a pogné ce rôle-là facilement. Puis, tu sais, il y a des gars de même qui. C'est pas une question d'âge, là. Tu sais, Jonathan Toews aussi l'avait quand il est rentré à.
Iserman,
tu sais, il y a une couple de boys de même, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Puis tu pourrais avoir 30 ans comme tu pourrais en avoir 19. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas.
Puis tu sais, l'époque du capitaine, puis c'est pareil pour, tu sais, on a vu ça avec les coachs aussi. Tu sais, avant, t'avais des coachs, puis levé sur le banc, puis pitch des affaires sur la glace. Puis tu sais, c'est plus ça. Mais les capitaines, c'est la même chose. T'es pas obligé d'avoir un gars qui a tout le temps le poing dans les airs, puis non, le capitaine est juste là pour calmer le jeu quand ça va pas bien. Puis le capitaine, son seul rôle, c'est lead by example. C'est toi qui vas travailler le plus fort. T'as pas le choix de travailler le plus fort que tout le monde si tu veux en demander plus aux autres.
C'est vrai.
Un vrai leader, c'est de même que ça marche, que ce soit dans une entreprise, dans une équipe sportive ou bien whatever. Si tu veux être le leader, il faut que ce soit toi qui travailles le plus fort. Parce que si tu as pogné de cul, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un après de se pogner le cul.
Effectivement. On dit que le futur capitaine n'est pas dans l'équipe en ce moment, mais il y a peut-être un futur capitaine dans l'organisation. Il y a beaucoup de gens qui parlent du niveau de leadership de Caden Goulet. J'attends à voir dans les prochains niveaux de hockey s'il va être capable de faire ça. Dans les affaires que Kent Hughes qui a dit, puis il en a dit des affaires, il a dit que l'année prochaine, il allait avoir un capitaine, quitte à n'importe un d'ailleurs. Il pourrait y avoir un capitaine de transition qui provient d'ailleurs. Ça se peut, puis ça, je crois plus que c'est ça qui est possible. Si t'es pas capable d'en faire germer de l'intérieur, puis il n'y a pas grand prospect de ce point de vue-là chez l'équipe en ce moment, parce que sinon, il n'y aurait peut-être pas tout ce qu'on vit là, ben tu vas faire une greffe de cœur, Chris, si t'en as pas, là.
Ah ouais, 100%. Ben, y croyez-vous, mettons, à une équipe que,
ben, moi,
qui n'a pas de capitaine, est-ce que pour vous, c'est une lacune parce qu'on dirait qu'il n'y a comme pas de cheval de tête qui lead, mettons, l'équipe par l'exemple versus quand une équipe a un capitaine, comme tu dis, de transition, juste pour, en guillemets, en mettre un pour en mettre un. Là. Mais pensez-vous que le fait d'avoir un C dans le vestiaire, ça fait une différence?
Pas si c'est un bon groupe de leaders qui se tient. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'imagine mal Suzuki chiller avec Petrie puis Gallagher ou faire des meetings avec eux autres. Je ne sais pas pourquoi je vois les quatre assistants comme deux ou trois clans. Là, Puis c'était ça le problème aussi à l'époque de Koivu. Tu avais la gang de Koivu, tu avais la gang à Théodore avec Dagenais puis Ribeiro. Puis tu sais, tu avais plusieurs clics, ça ne marchait pas, tu avais des équipes de cul. Là, ça a l'air d'être exactement la même chose. Puis là, c'est dommage parce que ça fait longtemps que le Canadien n'a pas eu. Parce que, tu sais, malgré toute cette merde-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de jeunes du Canadien qui grandissent dans cette organisation-là. Tu sais, des Romanov, des Caulfield, des Suzuki, mais ils n'ont personne pour leur montrer être des vrais pros.
Ouais.
Comme justement, comme Corey Perry pouvait faire avec Caulfield. Puis on le voit là, dans son jeu à Caulfield. Puis si tu revois des images de l'année passée, là, quand Caulfield revenait au banc, il jasait toujours avec Perry. Probablement que Perry, ben, il dit, hey, tu sais, quand t'as fait ça, ouais, ça, mais tu sais, tu devrais passer par là à la place, puis essaye de faire ça. Puis, tu sais, mais là, il n'y a plus personne. Il retourne au banc, le pauvre Caulfield, puis il regarde par terre parce qu'il n'y a comme pas d'amis sur ce banc-là. Tu sais.
Puis, il n'y a personne qui a fait ce que lui, il est en voie de peut-être faire dans la Ligue nationale. Tu sais, Corey Perry, il en a marqué en tabarnak des buts dans sa vie. Là, il n'y a personne qui a fait ça, scorer des buts à pocheter. Là.
Non.
Il n'y a personne qui comprend le cheminement que tu as besoin de passer à travers pour atteindre ça. C'est ça.
Ben, c'est vrai pareil. Ben tu as bien beau te faire dire par Paul Byron, « Hey, fais ça, tu vois, tu sais. » Mais c'est pas le même discours que d'avoir un... Tu sais, Corey Perry, il va probablement être d'induction pour le Temple de la renommée. Là. Fait que tu sais, ça reste que c'est un des grands qui a joué pareil dans la Ligue nationale dans les années 2000-2010. Fait que c'est sûr et certain que le discours passe mille fois mieux. Puis la même chose pour Caulfield, tu le reçois encore mieux parce que tu dis, hey Chris, c'est Corey Perry qui me dit de quoi faire. C'est ça, je vais le faire.
Ouais, puis,
tu veux faire plaisir à Corey Perry.
Tu sais, il y a des trophées Maurice Richard chez eux, là, Corey Perry. Là, puis j'imagine que Caulfield aimerait ça de l'avoir chez eux. Fait que c'est le genre de gars que tu as besoin pour te montrer ça. Là,
j'essayais de passer leadership à importer. Là. J'essayais, il y a beaucoup de rumeurs. Puis ça me fait un peu chier là, parce que la connexion est comme trop facile. Là. Mais tu sais, Bergeron de signer à Montréal, je vois pas pourquoi qu'il le ferait. Le temps, mais tu sais, j'embarque pas là-dedans. Là. Mais tu sais, je pense à des Giordano. Tu sais, si tu veux, il y a 38 ans, là, c'est un peu vieux. Là. Mais tu sais, un capitaine dans l'âme qui a du vécu, ça pourrait fitter, tu sais, qu'il va devenir libre. Getzlaff, je vois mal pourquoi qu'il quitterait Anaheim, mais il devient libre à la fin de l'année. Tu sais, ça existe, ce genre de profil-là de gars qui sont des capitaines dans l'âme. Faut juste réussir à le dénicher puis accepter que c'est vraiment un capitaine de transition là, qu'on a de besoin en ce moment-là.
Puis tu sais, comme je dis, t'as même pas besoin que ça soit un gars qui a eu énormément de succès comme les noms que tu as nommés. Là. Ça peut être un gars qu'on y pense pas vraiment, mais il est réputé à l'interne pour avoir un gros leadership. Il y en a plein dans la ligue. Là. Il attend pas. C'est con, mais juste Pat Maroon n'attend pas. Là. je suis sûr que c'est un gars avec un crisse de gros leadership dans ce vestiaire-là. Puis c'est pas pour rien qu'il est arrivé là-bas. Puis depuis qu'il est là, il y a deux Coupes Stanley. Il y a un gars, tu sais, il est sur un streak de trois Coupes Stanley d'affilée. Là. Fait que je pense que.
Pat Maroon est toujours un des gars le plus aimé d'investisseurs où est-ce qu'il joue. Là. Tu sais, moi, je l'ai vu pendant une couple d'années à Edmonton. Là, puis j'adorais Pat Maroon. Puis je l'aime encore. C'est un gars qui a l'air d'avoir du fun à faire ce qu'il fait. Puis, tu sais, il a un talent limité, mais il l'exploite au maximum. Il est toujours là pour ses coéquipiers. Puis, tu sais, oui, c'est ce genre de gars-là, justement, que tu peux faire comme. Tu sais, oui. Peut-être pas pour être capitaine à Montréal. Là,
mais tu comprends ce que je veux dire.
Il pourrait être dans ton groupe de leadership, oui. Oui,
effectivement.
C'est mais tu sais, tu veux-tu partir de Tampa et t'en dire à Montréal?
Non, c'est ça, tu sais.
Non, c'est sûr.
Je parlais tantôt de Caden Goulet, les espoirs du Canadien de Montréal. Je ne sais pas si vous suivez ça sur The Athletic. Scott Wheeler, à tous les années, fait son palmarès des meilleures banques d'espoir dans la Ligue. C'est vraiment réputé. Il y a l'effet Wheeler chez The Athletic. Là. Les abonnements augmentent quand arrive la saison.
Ça, puis Corey Proudman, quand il sort son top 25, top 100, 150 de prospects.
Ouais, il y a une influence majeure sur les ventes d'abonnements. Il l'a sorti, il est en train, en fait, parce qu'il fait un par semaine, si je ne me trompe pas, son palmarès, ou par jour, ouais, par semaine, 32, c'est un peu long. Il fait son palmarès des équipes et le Canadien est classé 8e pour la meilleure banque d'espoir. Le meilleur prospect, c'est Caulfield, bien entendu, même s'il y a une saison plus ordinaire. Et dans son palmarès, il a volontairement pas classé Logan Mailloux. Voici l'explication qu'il donne. Parce que là, il raconte que oui, il a vu des games dans lesquels il était, mais il garde un joueur en particulier, mais c'était pas ce gars-là qu'il regardait, c'était pas Mailloux. Et il finit en disant, et puis honnêtement, si je ne lui ai pas accordé d'attention, c'est que je ne suis pas à l'aise de l'évaluer en tant que joueur de hockey parce que je ne suis pas certain qu'il le mérite. Je crois qu'il est important que je fasse preuve de transparence dans mon travail et en ce moment, c'est là où j'en suis. Puis il poursuit en disant qu'il n'est pas sûr que lui, il a fait son travail de transparence puis il a vraiment fait la démarche pour pouvoir mériter d'avoir son retour au jeu. Ça, c'est la perception de Scott Wheeler. Et il dit que même l'OHL, quand ils ont fait leur point de presse, leur communiqué pour annoncer le retour de Logan Mailloux au jeu, c'était la même journée que, je pense que c'est les Olympiques, que les joueurs de la Ligue nationale étaient annoncés qu'il n'allait pas.
Non, c'était soit ça ou le U20 qui a annulé.
Oui, le U20 annulé, c'est ça. C'est la même journée, donc pour que ça passe un petit peu en dessous du tapis et qu'il n'y ait pas cette bombe-là. Fait que tu sais, sous-entendu que même la Ligue n'est pas tout à fait à l'aise avec ce retour au jeu-là, mais à un moment donné, tu sais, tu peux pas empêcher le gars d'avoir une carrière. Et donc, ma question, le sujet que je veux amener, c'est si vous étiez évaluateur de talent, le feriez-vous? Évaluer le talent, le prendriez-vous en compte ou vous seriez pas à l'aise, vous autres, sur le plan éthique et moral, de lui accorder de cette place-là, tu sais, cet intérêt-là à Logan Mailloux?
Ben, écoute, c'est difficile d'avoir le.
Puis on a vu d'autres évaluateurs de talent le faire, là, t'sais, le classer, le mettre numéro 1, numéro 5, whatever. Là, t'sais. Il y en a que eux, leur ligne éthique, c'est de dire go, on y est là, il joue, je l'évalue. Puis il y en a d'autres qui disent que non, tu sais.
Ben, écoute, t'sais, moi, ce que j'allais dire, c'est que peu importe que tu l'évalues pas, il va toujours avoir des questionnements pareils, éthiques ou pas. T'sais, sur ce que tu vas faire, autant de mettons, ne pas le juger, puis tu dis, tu sais, le gars, il avait 17 ans, on néglige pas tout ce qu'il a fait, mais tu sais, ça reste que le cheminement d'un être humain, tu sais, rendu à 25 ans ou 30 ans, puis ce que tu étais à 17 ans, tu en as fait des gaffes, là. C'est grave, pas grave, tu en as fait. C'est un parcours qui est normal, puis tu sais, de te dire, rendu à ce moment-là, est-ce que c'est de l'acharnement sur le jeune? Je sais pas, je peux pas juger pour ça. Mais à l'inverse, de ne pas l'évaluer, tu sais, l'évaluer, tu sais, je crois pas nécessairement que c'est une mauvaise chose en tant que telle, parce que ça reste un prospect de la Ligue nationale, même s'il n'était pas censé être repêché en tant que tel. Puis éthiquement, c'est le Canadien a fait une gaffe, mais aujourd'hui, il est là. Ça n'empêchera pas que ce joueur-là va avoir une carrière éventuelle dans la Ligue nationale. Tu sais, il a le talent, puis on le voit cette année, tu sais, il y a du gros succès dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est sûr qu'il va se rendre dans la Ligue nationale. Puis est-ce qu'il a vraiment fait pire qu'un Evander Kane qui vienne de signer un contrat avec les Oilers? Puis qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Selon moi, d'avoir sorti un gun puis d'avoir pointé sa femme qui est enceinte puis d'avoir festoyé quand que...
En partant, quand tu kicks ta blonde dans l'estomac quand elle est enceinte, hein, tu pars de fucking loin.
En tout cas, okay? On n'ira pas dans tout ce qu'il a fait, là, mais tu sais, il y a des affaires de viol de femme qui vient d'avoir une fausse couche. Là. C'est intense, c'est une
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est pire qu'Evander Kane? Selon moi, et crissement pas.
Ben non, c'est ça.
Puis, tu sais, Evander Kane, il roule sa bosse depuis longtemps, puis il vient d'avoir un contrat avec les Oilers. Fait que, tu sais, est-ce que le jeune de 17 ans qui a montré une photo, puis, tu sais, toute la patente qui a tourné autour, est-ce que c'était pas bon ce qu'il a fait? Évidemment, là, je dénigre pas qu'est-ce qu'il a fait, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut en revenir? Moi, je suis rendu à une étape où, si le cheminement du jeune a vraiment travaillé sur lui-même, il faut lui donner sa chance quand même. Là.
Mais c'est ça le problème. Puis moi, c'est ce qui m'a mis en tabarnak du fait que le Canadien l'a drafté. C'est pas une question de renier son talent ou rien. C'est juste que Astic, tu n'as pas rendu service de le drafter de même. En plus, en première ronde, mm-hmm. Tu sais, si tu vas le drafter en troisième ou en quatrième ronde, tu fais comme bon, OK, ils ont comme pris une chance, puis c'est correct. Non, tu fais un... Puis dans le contexte où est-ce qu'on était puis qu'on est encore avec le Me Too puis avec toutes les violences faites aux femmes puis whatever, c'était fucking maladroit. Moi, c'est ce qui me met en crise de cette sélection-là, c'est que j'ai comme l'impression que ce kid-là n'aura jamais sa chance, OK? Puis tu faisais le parallèle avec Evander King. Tu sais, faire des conneries à 16 puis à 17, c'est un peu normal, là. OK? Tu sais, j'en ai fait à chier des affaires à 16 puis à 17 ans que je suis pas nécessairement fier aujourd'hui, mais mon expérience de vie a fait que je ne recréerais pas ça. Tu sais, Evander Kane a 30 ans, c'est pas la même game, là. T'es un adulte, t'es supposé de comprendre que tu te comportes comme un asti de merde.
Tu fais pas des essais, c'est pas comme un kid qui fait des essais-erreurs pour découvrir la vie. Mm-hmm. Là, rendu à cet âge-là, le Evander Kane, c'est une marde.
C'est ça.
Ça, c'est un kid de 17 qui jouait avec des gars de 20-21.
Même plus vieux.
Ouais, puis qui voulait faire partie de la gang. Il a pris une photo du top de la tête de la fille. Je dis pas que c'était intelligent, là, OK? Mais c'était pour faire partie de la gang, pour être cool comme les plus vieux, puis whatever. C'est pas la même game qu'un adulte de 30 ans qui sait qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est ça qui est fâchant. Puis pour répondre à ta question, dans un classement comme ça, là, tu sais, t'es supposé d'y aller selon le talent du gars. OK? Fait que moi, je l'aurais évalué. Moi, je l'aurais évalué, je l'aurais mis dans mon classement.
Moi aussi,
personnellement. Je pense que le kid a... Puis j'enlève rien à la victime qui a beaucoup de choses à vivre. Tu sais, avec tout le respect que j'ai pour la victime, mais je pense que Mailloux a payé pas mal la date. Puis il va continuer de payer, malheureusement, un asti de bout. Mm-hmm. Puis c'est ce que je trouve plate. Moi, contrairement à toi, j'espère me tromper, mais je ne crois pas que ce gars-là va jouer dans la NHL. Pas qu'il n'aura pas le talent. C'est juste qu'il va se faire étouffer par cette histoire-là.
C'est qui le contrairement à toi?
Ben, contrairement à Nick.
Attends, est-ce que moi j'ai dit?
Ouais, tu sais, que Nick disait que c'est un gars qui va jouer à NHL. Je suis d'accord avec toi au niveau du talent, mais je lui souhaite vraiment d'être assez fort entre les deux oreilles et d'avoir toute l'aide qu'il a besoin pour passer par-dessus ça, puis qu'elle, tu sais, d'être capable de performer. J'ai des gros doutes là-dessus parce que c'est fucking énorme. Encore là, si ça avait été les Coyotes de l'Arizona qui l'avaient drafté, c'était une autre affaire. Tu sais, le monde en aurait parlé, mais ce serait déjà mort, puis on se rappellerait déjà plus de qui il est. Mais là, c'est Montréal, ça spin, puis ça spin, puis ça spin, tu n'y as pas rendu service.
Non, puis ça se peut que ce soit pas à Montréal, mais j'allais dire, parce que là, tu disais, est-ce que ça va brimer, mettons, sa confiance et tout. J'ai lu un article d'un, je me souviens plus si tu, Martineau, Anthony Martineau, en tout cas, c'est un gars qui est au Québec, Puis il évalue comme beaucoup les prospects, les jeunes prospects. Puis il disait comme quoi que ben lui, il plaçait Logan Mailloux comme le meilleur prospect du Canadien. Là. Mais je pense qu'il n'y avait pas Caulfield dans son classement, vu qu'il a joué slash NHL, là, mais avec tous les autres. Puis il disait comme quoi que Logan Mailloux est beaucoup confiant en ses moyens. Fait que tu sais, est-ce que ça peut lui permettre de passer à travers cette vague-là? Je pense que oui. Tu sais, en ce moment, la différence, c'est que si on avait vu des statistiques ordinaires de Logan Mailloux après avoir pas joué pendant un an, puis tu sais, de se remettre à rejouer au hockey en plein milieu de saison avec une équipe qu'il connaît plus ou moins, puis il y aurait eu des performances décevantes, probablement que je t'aurais dit, ouais, non, je pense que là, ça va pogner le bar solide, mais de voir comment qu'il joue, tu sais, je pense qu'il y a une équipe, tu sais, si une équipe comme les Hurricanes a redonné une chance à D'Angelo, qui s'est fait kick-out de sa propre équipe parce qu'il ne pouvait pas passer à côté du talent qu'avait D'Angelo, je ne peux pas croire qu'une équipe de la Ligue nationale, peut-être que ça ne sera pas à Montréal, mais une équipe genre l'Arizona ou genre un marché où il y a plus ou moins d'attention médiatique, que ce joueur-là ne pourrait pas avoir du succès. T'sais. Il a tous les atouts, il a le physique, il a le, comme je disais, il a la confiance en lui, il a la shot,
il est cocky, ouais. Tu sais, quand il revient au jeu et qu'il score à sa première game et qu'il fait des watts dans la foule, t'sais, comme à la Hulk Hogan, c'est comme.
Il y a un sens du spectacle.
j'aime les gars qui sont cocky de même. Mais dans son cas, il aurait pu se garder une gêne. Moi, je trouve, là, parce que.
Pour c'est comme... sa situation à lui, oui.
Mais je comprends, parce que aussitôt qu'il est embarqué sur la glace, puis qu'ils l'ont nommé, il s'est fait tuer, puis whatever.
Ouais, ouais, non, fait c'est ça.
Ça, c'est la réaction d'un gars de 17 ans, justement, qui fait comme allez chier, mes hosties.
Ouais, ouais.
Moi, quand j'ai lu ça, tu sais, Scott Wheeler, puis tout, la première affaire que je me suis dit, c'est que tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Il est là.
Non.
Il existe.
Il est là. Il appartient au
Canadien. Il appartient au Canadien. Fait que, veux pas, tu classes le Canadien 8e sans prendre en compte ce talent-là qui semble être pas piqué des verges.
Un choix de première ronde, là. C'est quand même un choix de première ronde.
Fait que ça veut dire que ton classement, toutes les autres positions au-dessus, tu peux douter qu'il serait peut-être un rang en arrière, tu sais. Fait que ça vient biaiser tout le travail que tu as fait. Il a dû mettre des dizaines, voire des centaines d'heures pour faire ça. Puis à la fin, tout le monde peut argumenter que ben, le Canadien aurait pu être 2-3 rangs plus haut parce que un des espoirs importants de l'organisation n'est pas pris en compte. Je comprends l'aspect éthique et moral et je lui accorde le droit de faire ce qu'il veut. Puis ses boss sont à l'arrière de lui, je suis convaincu. T'sais, ça a passé, vu que c'est le Canadien de Montréal, c'est clair que ça n'a pas juste passé « Hey, j'écris le papier puis je m'enligne d'attitude. » Ça a voyagé un petit peu dans l'organisation chez The Athletic puis sont d'accord avec ça, tu sais. Fait que je suis à l'aise avec le fait qu'eux, ils décident de faire ça, mais il existe, tu sais. Tu peux pas faire comme s'il n'était pas là, là.
Puis c'est étrange si l'année prochaine, tu le mets dans ton classement, mais il n'était pas là l'année d'avant. Tu sais, au final, il a fait le même geste, là.
Ou tu maintiens cette ligne-là tout le temps. Je sais pas.
Fait qu'il apparaîtra jamais dans un cas.
Ça se peut que des fois, ils évaluent genre le Canadien de Montréal, l'organisation. Hey, sont-ils bons? Puis ils vont faire comme ah, Chris, il n'y a pas de défenseur là. Il y a un spot vide.
Ils sont juste 5 défenseurs.
Ils gardent le spot vide tout le temps. C'est bien bizarre ça. Fait que c'est là-dessus, je pense, qu'on va mettre fin à l'épisode de cette semaine, les boys.
Parfait.
Ben ouais.
C'est là-dessus.
Ben, hey, je sais pas si tu voulais le garder pour l'après-show, mais avez-vous vu que le prix, ça a comme sorti entre les branches, mais le prix demandé pour Jeff Petrie?
Ah, à suivre dans l'après-show. On gratte ça pour l'après-show parce que je voulais qu'on parle le bilan de mi-saison un peu, là, les équipes qui sont hot, celles qui sont cold, puis voir si ça va se maintenir pour l'autre moitié de saison. À suivre pour les patrons de l'autre côté. Si vous n'êtes pas déjà patron, ben, faut le devenir. Bon, à partir de 3$ par mois, là, c'est négligeable comme prix pour pouvoir avoir accès à tout plein de contenu. On en a jasé les boys, puis à partir de maintenant, pour les prochaines semaines à venir, voire peut-être même de manière permanente, la POC, on va enregistrer à chaque semaine. Ça veut dire que pour les patrons, on vient doubler le nombre d'après-shows qu'on va enregistrer pour vous autres. Donc, patreon.com/ la POC pour avoir accès à ça à partir de 3$ par mois. Les Nick Suzuki et plus ont même accès à le backstage du show, comme Francis Benoit qui est venu assister à l'entrevue de Cal Carmoni en direct avec nous autres, puis qui est encore là à soir, un vrai fan. C'est notre meilleur, puis on l'adore, fait que de mémorable.
Francis était là, puis tu ne m'as pas dit.
Ah oui, Francis, il est là. Donc, ça vous donne accès à ça, là, les patrons du niveau Nick Suzuki et plus. Nos patrons actuellement que l'on remercie du fin fond de notre cœur. Danny Hogan Tousignan, Martin Côté, Francis Benoit, comme je vous disais, de Mémorable Authentique, Marc-André Fredette, Yves Brouillette, François Gagné, Mark Griffith, Christopher Hills, Adrien Lambert, Alexis Daou Tremblay, Pierre Giacometti, qui a gagné la POC de McKinnon direct en Suisse. 45$ de shipping. Oui, il l'a reçu. C'est très cool. Je suis vraiment content parce que c'est un vieux de la vieille. Je pense que c'est notre premier ou deuxième patron à vie. Un gros merci, Pierre, de nous suivre de même depuis si longtemps. Parlant de l'Europe, en France, les boys de Dans le Slot, podcast hockey issu de là-bas. Allez écouter
ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un crossover avec nos boys.
On va falloir les réinviter.
What the fuck?
Pour vrai, tu sais, on va faire
des
choix
avec vous autres, les boys, tabarnak, vous nous aimez plus.
Tabarnak.
Ouais, c'est quoi votre problème? Si, nous autres, on vous aime.
Ouais, mais on leur donne pas de cash. Là. Ils ont-tu un Tipeee? Ils ont-tu un.
Non, mais je sais pas. Bon, là, je sais qu'ils vont dire que c'est parce que quand on enregistre pour eux autres, il est 2h du matin.
C'est
là,
pas une astuce de raison, ça.
C'est des vrais ou bien c'est pas des vrais. On sait qu'ils sont debout parce qu'ils regardent le hockey anyway.
Ouais.
Ah,
c'est ça.
David Fontaine-Rondeau, Génital, Jean-Philippe Vandal, Jerry Godbout, Pierre-Luc Bouchard, Renaud Lavoie, Samuel Savard, Nicolas Schmid et Jérémy Rivard. Du podcast sur la Terre des Hommes. Donc, voilà pour nos patrons. En plus d'être patron, d'avoir tous les après-shows, les shows exclusifs, tout ça, vous avez aussi accès à notre groupe Facebook privé exclusif qui s'appelle Le Vestiaire. On vous raconte un petit peu le... Je fais tout le temps un petit compte-rendu là, du show, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des anecdotes, des affaires comme ça. Donc, j'ai même mis un petit extrait vidéo avec Carl Carmoni, un extrait qui avait
ses dentiers.
Qui avait du mordant. Fait que j'ai mis ça. Et voilà, donc c'est ça la plug pour le Patreon. Patreon.
Juste ça vaut vous. Juste cette vidéo-là vaut 5$ US.
Yes. Baronique la POC. C'est ça. Nicolas Desrosiers, Sylvain Rioux, JB Gagné qui était avec vous pour cette édition de la POC. On vous dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye! Bye bye!